être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
Être trans, c'est ne pas être en accord avec le genre qu'on a assigné à la naissance. C'est-à-dire que moi, ils pensaient que j'étais une fille, mais en fait, non.
Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus.
En 2013, vous vous souvenez? Les cathos nous avaient ramenés au Moyen-Âge. Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Touche pas à mes stéréotypes de genre, qui détruit la famille, menace la paix civile, ou encore, papa porte un pantalon. Ah, ils étaient fiers, les Jean-Eudes, les Charles-Henri, elles étaient vénères, les Sixtines, les Marie-Caroline, avec leurs colliers de perles, leurs prions en église, leurs marmailles et leurs Figaro magazine. Une vraie catho pride comme ils en rêvaient. La revanche des grincheux qui supportent pas que la société évolue sur les questions de genre. Et puis, patatras quoi. Une démission de pape, des dizaines de scandales sexuels, la pédocriminalité qui saute à la gueule des évêques. En quelques années, on est passé en mode « balance ton prêtre ». Pourtant, le nouveau boss, François, il avait l'air plutôt cool au début. « Fratelli tutti, qui suis-je pour juger ?» Bon, disons-le, après 30 ans de pape de droite, on pouvait avoir l'impression que celui-là était de gauche, une sorte de José Bové gentiment gay-friendly. Et puis, repatatras, parce que le pauvre, il a rien changé, il a juste dû nettoyer la merde accumulée depuis 30 ans en mode écurie d'Ogia.
Quand j'avais 15 ans, j'étais non seulement croyant, mais aussi méchamment pratiquant. Je parle de la messe, hein, et tout ça, pas de second degré. Et je me souviens très bien avoir cherché dans le catéchisme de l'église catholique, on avait un exemplaire à la maison, ma mère faisait du cathé, la confirmation de ma propre condamnation. Les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés. Pas juste désordonnés, quoi, vraiment de l'intérieur, c'est tout pourri, caca boudin, burke. Et j'avais même pensé aller voir un prêtre psychanalyste. Tony Anatrella, qui disait qu'il guérissait de l'homosexualité. Oui, je reviens de loin. Surtout que, depuis, le mec, il a été accusé d'attouchement sur mineur, comme Monseigneur Di Falco que je voyais à la télé, comme des milliers de prêtres, en fait. Et puis, il y a le double discours. On condamne l'homosexualité, le préservatif, le mariage pour tous, mais on fait des chemsex parties, ça c'est au Vatican en 2019, on se tape des escortes, ça c'est à Milan en 2018, et ça drague à tout va dans les séminaires. À beaucoup d'égards, il semblerait que Dieu préfère les mecs. Non mais genre, saison 3, épisode 4, l'église et le genre, entre dogme et confusion, bienvenue dans le dernier bastion du patriarcat.
Chantant nos cantiques, nous étions petits bons hommes. Bercé par la musique d'un bon vieil harmonium qui n'était pas électrique, aussi pour le faire fonctionner, un ecclésiastique, un abbé pédalait. Mon Dieu, comme il pédalait, qu'il pédalait bien l'abbé. Au mois de Marie, au joli mois de mai, la Vierge, notre amie, le soir nous endormait. Et nous rêvions, c'est étrange, que notre abbé reçu à Rome par le pape et les anges leur jouait de l'harmonium. Mon Dieu, comme il pédalait, qu'il pédalait bien l'abbé. La vie va trop vite, parfois même elle s'emballe. Soudain, l'abbé nous quitte, trouvé mort au pédale. Et nous pensions en silence que ce jour-là s'était enfui un peu de notre enfance emporté avec lui. Mon Dieu, comme il pédalait, qu'il pédalait bien la paix. Souvent, c'est bizarre, il m'arrive de rencontrer dans les trains ou les gares des enfants escortés par un ecclésiastique. Alors oui, c'est plus fort que moi. J'entends un vieux cantique de tristesse et de joie.
Nous sommes le mardi 5 octobre 2021.
Vous devez payer pour tous ces crimes.
Il s'appelle François Devaux, il a été abusé dans sa jeunesse comme 80 autres scouts par le prêtre multirécidiviste, le père Prena. Au nom des victimes de violences sexuelles dans l'église, il a demandé ce mardi des comptes aux responsables catholiques. Après 3 ans de travail, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, présidée par Jean-Marc Sauvé, a remis son rapport ce matin. Elle évalue le nombre de victimes mineures de pédocriminalité au sein de l'église à 330 000 depuis les années 50. Elle demande à l'église aussi de reconnaître ses crimes, ses silences systématiques et ses fautes.
Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prena est revenu sur la région de Lyon, comme avant.
Il t'a vu?
Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants?
Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret.
Je suis horrifié par ce que vous me dites.
Oui, enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre.
Je vais être clair avec vous, le père Prena restera toujours prêtre.
Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner?
Mais je suis sûr qu'il en existe.
Il y a une plainte qui a été déposée contre Prena.
Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose.
Il faut réunir d'autres victimes.
J'attends depuis toujours ce moment que je puisse enfin tout raconter moi aussi.
Mais c'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prena?
Ouais, je porte plainte.
Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits.
Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement.
Moi, je voudrais vous dire que je passe ça contre l'Église, mais pour l'Église.
Maman, tu te souviens? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prena m'avait embrassé.
Pourquoi vous n'étiez pas allé voir la police?
Peut-être qu'on aurait dû.
Ça fait plus de 30 ans, Alexandre.
Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prena qui est toujours en contact avec des enfants.
Tu as toujours été doué pour remuer la merde.
Non, mais Jean.
Une émission hors norme.
Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 et vous écoutez Non, mais Jean. Et ça fait longtemps qu'on n'était pas là et
à
on
l'antenne.
Est de retour avec Suzy.
Voilà.
Ça va, Suzy?
Très bien.
Eh ben moi, ça va aussi.
Oui, pardon, je t'ai pas posé la question. Ça va, Bertrand?
Ouais, ça va. Je suis content d'être de retour dans le studio. Et ce soir, on a une émission qu'on avait prévue depuis bien longtemps. Du coup, on est un peu déconnecté de l'actualité parce qu'on voulait la faire juste après le rapport Sauvé, dont on a entendu un
extrait.
Ouais, un extrait. On a entendu parler sur Mediapart. Et donc, le rapport Sauvé, qui est le rapport de la CIAZ, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a été rendu le 5 octobre dernier. Donc, ça fait quasiment 2 mois. Ça fait plus de 2 mois, en fait. Et donc, vous avez écouté un extrait de L'Abbé à l'harmonium de Trenet, un titre de 1971. Donc, c'est l'abbé qui pédalait, etc.
Voilà.
Enfin,
il aime pédaler.
Ouais, il aime pédaler, tout ça. Et c'est une chanson de 71 qui évoque les abus sexuels, en fait, dans l'église. C'est un prêtre pédophile.
D'accord.
Mais c'est en 71, à un moment où c'était complètement tu.
Ouais.
On est bien avant la commission Sauvé, en fait. Et donc juste après, vous avez entendu un extrait de la bande-annonce de Grâce à Dieu, donc le film de François Ozon de 2018, hein, qui évoque les abus liés au père Prénat. Voilà, donc on va commencer cette émission sur l'Église et le genre, parce que l'Église, c'est quand même, surtout sur cette question-là, beaucoup d'interdits, et donc j'ai trouvé un petit son qui résumait en gros 30 ans d'interdits papaux.
Jean-Paul II a rappelé les grands principes de l'Église, il a dit non à la bande des quatre péchés de notre époque, la contraception, le divorce, l'homosexualité et l'euthanasie.
Dans un discours improvisé, Benoît XVI a dénoncé les menaces contre la famille, condamnant ainsi l'homosexualité, l'avortement et la contraception.
Quand cela se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie. Pour voir comment sont les choses.
Et donc là, on a les trois derniers papes, hein, Jean-Paul II, le très très long pontificat 1978-2005, et après Benoît XVI, 2005-2013, sa démission à grand fracas, et puis depuis le pape François. Et donc les trois, au début du son, on a le divorce, la contraception, l'homosexualité, l'euthanasie. Je vois pas trop le rapport en fait entre les quatre sujets, c'est pas...
Non, c'est des péchés, c'est des péchés, Bertrand.
Voilà, c'est des péchés. Et en fait, c'est quand même intéressant, en fait, cette Église catholique qui a beaucoup, beaucoup de mal à se faire à la... Alors, est-ce que c'est la modernité? Est-ce que c'est juste l'humanité? Enfin, il y a une espèce de côté ultra-réactionnaire, en fait, de l'Église catholique.
Tu sais que j'ai vu ma mère pleurer le jour de l'élection de Benoît XVI.
Ah ouais?
Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle a exprimé, du coup, après ?
Eh bien, parce que c'était un réactionnaire qui était élu. Et du coup, pour elle, l'Église, elle doit signifier la bonté, la bienveillance. Et du coup, il ne l'incarnait pas du tout pour elle.
Oui, parce que c'est Ratzinger, en fait, hein, Benoît XVI.
Et
il a inspiré à peu près toutes les encycliques réactionnaires de Jean-Paul II. Enfin, qui n'avait pas besoin non plus d'être poussé dans ce sens-là. Hein. C'était un... c'était un pape polonais, l'Église polonaise, elle était quand même, c'est pas la plus ouverte.
Non, plus ouverte des églises. On le voit d'ailleurs dans l'actualité aujourd'hui, ouais. Parce que le gouvernement polonais veut se mettre dans la poche l'Église et du coup vote des lois contre l'avortement.
Et du coup, la justification en fait de tous ces interdits, évidemment, c'est la Bible, hein, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. En fait, il y a pas tellement d'occurrences en fait de dans la Bible d'interdits sur l'homosexualité ou alors sur les femmes il y a beaucoup beaucoup de choses mais sur l'homosexualité il y a pas grand chose. Alors il y a tout le temps ce qui ressort, c'est Sodome et Gomorrhe. Alors en cherchant, j'ai trouvé la Bible en dessin animé, c'est assez marrant, enfin marrant, c'est pas marrant en fait. Ouais, c'est pédagogique mais c'est quand même vachement réac.
L'Éternel Dieu a dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement. Les villes de Sodome et Gomorrhe étaient remplies de mal, de débauches, de meurtres endémiques et de luxure. Ils allèrent jusqu'à élever la voix contre Dieu, à lutter contre lui, offensant son tempérament.
Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions.
Sodome et Gomorrhe, et tous leurs résidents, furent réduits en cendres, disparaissant sous la colère de Dieu.
La colère.
Ouais, puis, si tu me dis que c'est un dessin animé, que c'est bon, ça se veut pédagogique, et là, en fait, la colère de Dieu fait que la ville brûle, c'est un peu violent quand même.
Ah ben c'est super violent. Enfin, l'Ancien Testament, c'est quand même super violent en général. Mais bon, Sodome et Gomorrhe, l'anéantissement des villes, bon, on va pas épiloguer, mais Sodome, ça a quand même donné sodomie, même si en fait, les exégètes se disent que en fait, c'est plus un problème d'hospitalité. Mais ce qui a été retenu, c'est que à Sodome et Gomorre, on pratiquait la sexualité non conforme. Et dans l'extrait, on entend sort les gens là qui sont entrés, les garçons qui sont entrés, que nous les connaissions. En fait, on sait très bien que dans la Bible, connaître, en fait, ça veut dire avoir des rapports sexuels avec.
D'accord.
Et voilà, donc ça a donné sodomie, sodomite. Il faut rappeler que jusqu'au XVIIIe siècle en France, les sodomites étaient brûlés. Et c'était les homosexuels, en fait, c'était les LGBT, c'était le nom qu'on donnait aux LGBT à ce moment-là. Et alors, en cherchant, en fait, j'ai trouvé une youtubeuse, une théologienne queer. Mm-hmm. Il n'y en a pas beaucoup.
Oui, j'imagine.
Et il y en a, en fait, c'est une protestante. Chez les catholiques, je crois qu'il n'y en a pas, en fait. Enfin, j'en ai pas trouvé. Donc, elle a fait une espèce de réponse sur ces questions-là, en fait, comment on invoque, comment on utilise la Bible, en fait, pour asséner ces espèces d'arguments sur...
Et d'interdits.
Voilà, sur les personnes LGBT. Et sa réponse, je l'ai trouvée vraiment, vraiment intelligente.
Lors d'une émission d'une très célèbre animatrice radio aux États-Unis, elle fait remarquer durant cette émission que pour elle, l'homosexualité est une perversion et elle dit « C'est ce que dit la Bible dans le livre du Lévitique, chapitre 18, verset 22. Il est écrit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, parce que ce serait une abomination. » La Bible dit « Un point c'est tout », affirme-t-elle. Quelques jours plus tard, un auditeur va lui adresser une lettre ouverte qui dit la chose suivante. Il dit « Merci, merci de mettre autant de ferveur à éduquer les gens à la loi de Dieu. Parce que j'apprends beaucoup à l'écoute de votre programme et j'essaie d'en faire profiter tout le monde. Mais justement, j'ai besoin de quelques conseils parce qu'il y a d'autres lois bibliques qui sont un peu plus difficiles à appliquer. J'ai besoin de vous. Par exemple, je souhaiterais vendre ma fille comme servante. » Oui, vous savez, c'est indiqué dans le livre de l'Exode, chapitre 21, verset 7. Et je me demandais, à votre avis, ce serait quoi le meilleur prix ? J'ai un dernier conseil, mon oncle, voilà, je l'aime beaucoup, mais mon oncle ne respecte pas ce que dit le livre du Lévitique au chapitre 19, verset 19. Il plante deux types de cultures différentes dans le même champ. Et en plus de ça, sa femme, elle porte des vêtements faits avec des tissus différents, du coton et du polyester. Il passe sa journée à médire, à blasphémer. Alors je voulais savoir, est-ce que c'est nécessaire d'aller jusqu'au bout de la procédure embarrassante qui est de réunir, vous savez, tous les habitants du village pour lapider mon oncle et ma tante ? Vous savez, c'est dans le Lévitique, au chapitre 24, versets 10 à 16. Je me demandais si on ne pouvait pas peut-être les brûler vifs au cours d'une simple réunion familiale privée, par exemple, comme ça se fait avec, vous savez, dans l'autre loi, ceux qui dorment avec des parents proches, ben, eux, on peut les brûler vifs. Donc, je me demandais si peut-être on pouvait trouver un petit arrangement avec ça. Voilà. Je sais, madame, que vous avez étudié les sujets à fond. C'est pour ça que j'ai confiance totalement en votre aide. Merci encore de nous rappeler que la loi de Dieu est éternelle et inaltérable. Votre disciple dévoué et fan admiratif. Oh my God, have you seen this one? Scooter, let me show it to you. Okay, what is it? He's a politician with the love of the Lord. He's getting kickbacks from his seat on the church board. He voted no, of course, on your civil rights. And if he gets elected, he'd reverse that, all right. Your basic needs are not his priority. He's got his reputation to oversee. So if you're gay or if you just don't fit in, he'll introduce you to the wages of sin. Who swears he's not gay? When asked if there's a woman, he'd rather not say. And what about this asshole, caught with kiddie porn? He's funneling funds through churches to protect the unborn.
perpetuate this worldwide fraud and tear up the Bible. Tell the difference between any of those other religions?
Hell no!
Do we really need any of them anymore?
Hell no!
Et vous êtes toujours sur Radio Alpa dans l'émission Non mais Genre. Et vous venez d'écouter Blime, The Bible de Pansy Division, un groupe qu'on a déjà diffusé. Parce que c'est un peu un groupe emblématique du queercore qui véhicule du coup des messages pour défendre le droit des personnes queer et là qui dénonce les méfaits ou en tout cas les dérives de l'interprétation de la Bible. Hein,
de la Bible, ouais. C'est la faute à la Bible, en fait, c'est ça le titre, en fait.
Ouais. Donc c'est un groupe qui est vieux, qui date maintenant, qui est né à San Francisco dans les années 90, début 90, et qui a publié ce titre, qui a une très longue carrière, puisque ce titre-là date de 2016. Voilà.
Ah ouais.
Oui, oui. Donc c'est un groupe très, très connu dans le milieu queercore. Voilà Bertrand, et effectivement ça venait faire écho à l'extrait qu'on venait d'entendre de cette youtubeuse
Caroline Costa, en fait. Voilà, j'ai pas dit son nom, la théologienne queer. Moi j'ai trouvé cool en fait de voir qu'il y avait des théologiennes queer, en fait, que le queer en fait c'est pas uniquement dans des petits réseaux militants, mais qui compris dans la théologie. Puis il y a même des gens sérieux, j'allais dire, mais au Collège de France par exemple, parce que j'ai fait pas mal de recherches, il y a Thomas Römer qui a travaillé un peu sur l'interprétation de la Bible, et il dit des choses intéressantes aussi sur l'homosexualité, mais elle reprend tout ça et elle déconstruit pas mal ces interprétations réac de la Bible.
De manière très sarcastique, on l'a entendu.
Je trouve ça bien fait, en fait.
Oh, c'est cool.
Et puis, alors là, dans cette séquence, je voulais qu'on aborde un peu la question du sexisme dans l'Église catholique et puis dans les religions en général, parce que les femmes, je crois qu'elles prennent cher, en fait, dans les monothéismes. Et du coup, pour introduire ça, je voulais qu'on écoute trois extraits de films qui vont parler des trois monothéismes, le judaïsme, l'islam et puis le christianisme.
Vous voulez me parler de votre intimité ?
Ben, elle est normale, mon intimité. Je fais pas ce qui est interdit par la Torah.
Comme quoi ?
Tu veux que je sorte ?
Je vais vous apprendre à faire plaisir à votre mari, tout en restant fidèle à la Torah. Vous savez qu'il n'y a pas qu'une façon d'avoir des relations intimes.
Oui, je sais.
Alors ?
J'ai peur de perdre ma pudeur et de pas respecter les commandements.
Regarde-moi dans les yeux, Nessie. Je suis ta mère. Pourquoi je devrais me voiler ?
Tu es une femme.
Qui c'est qui t'a mis au monde, toi et ta barbe ? Lève-toi ! Pourquoi je devrais me voiler ? Pourquoi je devrais me cacher ? Qu'est-ce que tu vois, l'esprit de Satan, un objet du désir des hommes ? Si ton père ne m'avait pas désiré, sache-le, tu ne serais jamais venu au monde. Le voile avait été conseillé il y a très longtemps, pour distinguer les femmes vertueuses des esclaves, pour qu'elles soient respectées. En ce temps-là, une femme qui n'était pas voilée était considérée comme esclave, ce qui voulait dire une femme facile à posséder. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a plus d'esclaves. Aujourd'hui, ici, toutes les femmes sont libres. Et aucune femme, écoute-moi bien mon fils, aucune femme ne doit être facile à posséder. Si les hommes ressentent du désir pour les femmes, qu'il en soit ainsi, c'est la volonté d'Allah. Mais plus jamais. Jamais ils nous rendront esclaves, nous couvrir et nous balloter comme des gros paquets pour éteindre leurs désirs charnels. C'est à vous de fermer les yeux s'il le faut, maîtriser vos envies sataniques, lutter contre les tentations du démon. C'est sur vos yeux qu'il faut mettre un voile, pas sur notre visage.
Mais enfin, Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité ? Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait.
Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon.
Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie.
Mais madame...
Marie-Thérèse, rappelez-vous. Vous êtes bien sortie une fois avec un garçon.
Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais sorti avec un garçon. Je ne sors jamais avec un garçon.
Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir.
Mais non, madame, je vous jure, je ne vais jamais au bal.
Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse. Ils vous ont peut-être fait boire.
Criez pas. Je vous jamais.
Mais enfin, Marie-Thérèse, c'est impossible.
Mais madame, je vous jure que j'attends un bébé, ça c'est sûr. Mais que je n'ai jamais couché avec un garçon.
rentrez chez vous. J'ai déjà assez de soucis comme ça en ce moment. Ça va rendre plus à supporter vos mensonges.
Maman, pourquoi vous criez? On ne ment peut-être pas, mais peut-être comme la Vierge Marie.
Écoute, ça va, hein?
Maman, je n'ai pas voulu vous faire de la peine.
Je sais, je sais. Je suis fatiguée, Pierre, tu comprends? Trop, c'est trop, j'ai pas mérité ça.
Enfin, maman, il faut savoir souffrir. Le bon Dieu nous met à l'épreuve. Le Christ aussi a souffert pour nous sur la croix. La vie n'est pas un fleuve tranquille, maman.
Eh oui. Ouais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Ah, c'est bien, ça.
Ouais, bravo, ouais. Merci pour cette petite, ce petit extrait, Bertrand.
Donc, on vient d'écouter, alors, dans l'ordre, c'est un extrait de La Source de la Petite Jérusalem, en fait, qui se passe dans les milieux orthodoxes juifs. C'est un film de 2005. Ensuite, c'est La Source des Femmes, un film de Radu Mihailenu. Mihailenu, c'est celui qui a réalisé Va, vie et devient. Et okay. Moi j'aime bien la phrase qui c'est qui t'a mis au monde, toi et ta barbe.
Toi et ta barbe.
Avec la question du voile. En fait, le fil conducteur, c'est quand même l'éducation à la pudeur chez les femmes. Ouais. Parce qu'après, il y a l'extrait de La vie est en fleuve tranquille où. Voilà, elle est enceinte, elle a couché avec personne, etc. Il y a la Vierge Marie. Enfin, la Vierge Marie, c'est quand même un truc énorme chez les catholiques. Et c'est quand même le fantasme ou l'idéal d'une féminité inaccessible. Enfin voilà, c'est un peu le mythe de...
Inaccessible, accessible. Je crois qu'il y a une espèce de balancement là-dessus. Ouais. Parce que la Vierge Marie, en fait, quand tu fais les comptes, elle devait avoir, je sais pas, 15 ans quand elle s'est mariée à Joseph, qui devait en avoir 50.
Ouais, et puis elle a eu d'autres enfants, en fait, parce qu'on parle des frères de Jésus.
Bah c'est ça, et des frères qui sont beaucoup plus vieux, mais qui ne devaient pas être ses propres enfants.
Il y a Jacques.
Enfin bref, c'est bizarre. Je pense que c'est la femme instrumentalisée.
Complètement.
Aussi, quoi.
Alors qu'en fait, dans l'évangile, en fait, dans les textes, t'as aussi t'as plein de femmes autour de Jésus, mais dans l'institution...
Marie-Madeleine.
Ouais, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Marthe et Marie, il y en a une.
Samaritaine.
Ouais, je sais pas s'il y a une Samaritaine. Ouais, peut-être, oui.
C'est la Samaritaine, c'est celle qui a péché.
Ouais, mais puis c'est Marie-Madeleine, surtout, la prostituée, en fait.
Ah bon?
Ouais, je crois.
Ouais,
qui vient lui nettoyer les pieds avec du parfum.
Pourtant, j'ai fait du caté.
Ouais, toi aussi. Hein.
Ouais,
on a été pas mal abîmés. Hein.
Comme quoi, on peut avoir fait du caté et finir dans une émission qui s'appelle Non mais genre, sur le genre et le féminisme.
Bah bon, ouais, hein,
voilà.
Ouais,
on s'est sauvés nous-mêmes et on n'a pas attendu que Dieu vienne nous voir. Quoi.
Bah ouais. Et en fait, ce qui est frappant, c'est comment l'institution, en fait, l'institution Église, elle a tout réorganisé ça. Parce que moi, souvent, je me dis que quand on lit les Évangiles, Jésus, visiblement, c'était un type bien. Enfin, il dit des trucs pas mal. Hein.
Mm-hmm.
Il dit des trucs pas mal. Par rapport à son époque, il s'ouvre à des tas de gens qui étaient complètement exclus, les lépreux, les non-juifs, les femmes. Il y a beaucoup de femmes autour de lui. Mais c'est après l'Église, comme elle a phagocyté tout ça. Et comme aujourd'hui, en fait, alors comme le rappelle, là, c'est un débat qui a eu lieu à Mediapart juste après le rapport Sauvé, donc en octobre. Donc il y a, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais son nom est rappelé, et qui explique que les femmes sont au service et les hommes dans l'Église sont au pouvoir.
Alors, Sabine Soret, je voudrais commencer par vous et votre livre. Il a été publié en 2014 et son sous-titre ou sa phrase d'accroche, je ne sais pas comment on peut dire, c'est « Ils sont au pouvoir, elles sont au service ». Donc déjà, vous dénonciez le monopole masculin du pouvoir dans l'Église catholique et toutes les violences qui en découlent dans la société. Expliquez-nous un peu comment est né ce livre, peut-être, et ce qu'il raconte.
L'idée, c'était, on ne comprenait pas très bien, avec l'expérience qu'on avait d'engagement dans l'Église, pas très bien pourquoi ça fonctionnait comme ça, pourquoi les femmes ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas poser de questions, mais par contre, faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis, on a essayé d'interroger des femmes en responsabilité, leur parole n'était pas libre, donc on ne pouvait pas écrire. Et on s'est dit, ah ben, il y a un truc qu'on peut faire, on peut avoir une source très intéressante et très importante, c'est ce que ces messieurs, tous ces messieurs d'Église, ont écrit, ce qui s'appelle la tradition, c'est-à-dire le droit canon, le catéchisme, toutes les encycliques, toutes les homélies du pape Jean-Paul II en particulier, il y en a beaucoup, beaucoup. On a lu tout ça et on a cherché non pas seulement ce qui était dit sur les femmes, mais ce qui était dit aussi sur les hommes. Et c'est là où nous, on a découvert des trucs quand même beaucoup plus que ce qu'on attendait par rapport aux quelques hypothèses qu'on avait. Et on a vu à quel point, je reprends le mot bloqué, il y a un blocage conscient du rapport homme-femme qui est un rapport de domination totale. Ce qui nous a beaucoup choqués, c'est de constater, de voir qu'il y a une parole qui revient régulièrement chez les évêques. Et le pape, c'est eh bien, le pouvoir, c'est le service. C'est-à-dire qu'il se donne une image de service, puisque c'est quand même le message de l'Évangile, en gros, alors qu'en fait, ils sont au pouvoir et qu'ils ne veulent pas vraiment le reconnaître.
Ok, pardon, excusez-moi. c'était quoi ce son? C'est qui parlait déjà, Bertrand?
C'est Sabine Sauret, en fait, qui a publié en 2014 un livre qui s'intitule Le déni. Donc, le déni de ce pouvoir masculin, en fait, qui explique qu'en fait, le pouvoir, c'est du service. Je trouve qu'elle le dit très, très bien. Et ça résume à peu près ce qui est dit depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que l'Église catholique, c'est une institution ultra féminisée.
En témoignent donc toutes celles qui nous ont fait le caté.
Bah voilà, les catéchistes, c'est des femmes.
Comme ma mère, animent les cérémonies et accueillent donc à la place des prêtres, puisqu'il y en a de moins en moins. Hein. Bah c'est oui. Comme dans la fonction publique, il y a comme une diminution des effectifs.
Il n'y a pas de contractuel en fait dans l'Église catholique.
C'est ça. Et puis c'est donc des bénévoles qui prennent le relais des prêtres, notamment sur les services funéraires et qui accueillent les familles qui viennent de perdre un proche et qui se tournent vers l'église ou la paroisse. Et c'est des femmes, bien souvent, qui... Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est marrant parce que je ne suis pas allée chercher de ce côté-là, mais cet extrême m'y fait penser. J'ai qu'une vision partielle et partiale et du point de vue de l'expérience de ma mère, donc qui anime et qui accueille ses familles et qui anime certaines cérémonies funéraires en choisissant avec la famille, les chants, les textes, etc. Et pour avoir aussi assisté à l'enterrement de ma grand-mère il n'y a pas longtemps, c'était un diacre. C'était pas le prêtre, mais c'était un diacre, donc un civil. Puisque du coup, oui, c'est ça, mais je me posais la question, il n'y a pas de diacre femme?
Je sais pas s'il y a des diaconesses, mais je crois pas. Mais à chaque fois en fait, qu'il est question de prendre du pouvoir, voilà, y compris en hommes, prenant la parole, en fait,
donc,
c'est des hommes.
Et donc les petites mains, c'est les femmes. Voilà.
Mais quand tu vois comment l'institution fonctionne, en fait, s'il n'y a plus de femmes, ça s'écroule.
Ah bah là, oui, complètement. Et puis il n'y aurait plus de crédibilité, il n'y aurait plus de vraie prise en charge, pour le coup. Ce que tu disais sur l'Église est quand même son rôle de d'accompagner ou de... Voilà, et ben c'est les femmes qui prennent en charge réellement cette fonction.
Ouais.
En premier lieu. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
On s'écoute un petit son que t'as choisi.
Pay
Your Way
oui.
In Pain.
Je sais pas où c'est.
De
dans
Saint Vincent.
Et ben je sais pas où il est. Alors, nous allons essayer de meubler en attendant...
Sinon, on passe la chronique de Johnny.
Parce que je ne l'ai pas dans la liste.
Johnny nous a fait... Johnny, ouais. Il est en train d'écouter une super conférence, il va nous le dire, là, et une conférence féministe. Et il nous a préparé quand même une chronique sur... on va écouter sur quoi, d'ailleurs.
Allez, c'est parti.
Bonjour à tous. Alors sachez qu'aujourd'hui, je ne suis pas avec mes camarades en studio, car au moment où vos oreilles écoutent notre brillante émission, je suis à Alençon, ma ville, en train d'assister à la tout aussi brillante conférence d'Aurore Cochlin, autrice de « La révolution féministe », un essai sur l'historique des vagues féministes et sur le potentiel révolutionnaire de la quatrième vague. Mais revenons à cette émission. Aujourd'hui, je déroge à ma présentation habituelle. Je suis juste Johnny, PD et énervé. En effet, je me demandais quel sujet traiter pour cette émission sur la religion. Eh bien, il ne m'a fallu que 5 minutes sur Google pour tomber sur une tribune parue dans La Croix le 28 octobre dernier, sobrement titrée, tenez-vous bien, « Il y a bien une corrélation entre homosexualité et pédophilie dans l'Église ». C'est écrit par Guillaume Cuchet, professeur d'histoire contemporaine et spécialiste des religions. Il réagissait au rapport Sauvé. Alors, depuis ce week-end, et grâce au soutien d'Éric Z, nous savons que la phrase « non au racisme » est une provocation qui appelle une réponse violente. Par conséquent, une phrase comme « il y a bien une corrélation entre homosexualité et pédophilie dans l'église », bah, ça mérite bien une chaise dans la gueule.
Ouh là là, c'est la décadence hein.
Au départ, cela m'a profondément agacé de voir un soi-disant spécialiste pondre une réflexion aussi nulle, sans aucun argument pertinent ni correctement utilisé. Puis, j'ai réalisé que cette tribune était en réalité une analyse volontairement fallacieuse pour dissimuler une attaque contre l'homosexualité. Si je reprends les infos que Cuchet a voulu transmettre dans sa tribune, j'obtiens homo égale pédophile, homo égale pédocriminel, le rapport Sauvé parle surtout de pratiques homosexuelles, les homos entrent volontairement dans l'église, la formation des prêtres en non-mixité crée des homos, il faut chasser les homos de l'église. Ah bah oui, on voit clairement la cible de la tribune maintenant, et ce ne sont pas les auteurs de violences sexuelles, non non. Cette tribune est en réalité une attaque de l'Église et de ses partisans contre notre communauté. Elle montre bien les forces qui sont à l'œuvre. Ce n'est pas un cas à minimiser, et encore moins un cas isolé. En octobre dernier, le Sénat italien a rejeté une loi interdisant les discriminations à l'encontre des LGBTQIA+, sous pression des conservateurs et du Vatican. La Croix n'est pas un petit journal. Ce genre de texte instrumentalise et dévoie un problème de société pourtant gravissime pour attaquer l'homosexualité. Et tout cela est fait sciemment. Pire encore, ce discours empêche de voir les vraies causes des violences sexuelles dans l'Église.
Ce que vous dites, c'est que le secret de la confession aujourd'hui est plus fort que les lois de la République.
Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera.
Elle est plus forte que les lois de la République.
Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République.
Imaginez une seule seconde qu'un représentant d'une autre religion ait dit cela. Alors on va me répondre que le gars a été convoqué par Darmanin. Donc c'est Darmanin qui signe des bails à l'encre de son sperme, qui est celui qui doit expliquer qu'on ne peut pas cacher des actes pédocriminels ? Non, non, on a là une église incapable de faire le premier geste nécessaire à la reconstruction d'une victime, la reconnaissance de son statut de victime et par conséquent aussi celui de son agresseur.
Au moment où je reçois cette acceptation de la remise de ma charge de la part du Saint-Père, les événements douloureux de la semaine passée sur lesquels je me suis déjà exprimé m'avaient amené à remettre ma mission dans les mains du pape François pour préserver le diocèse de la division que provoque toujours la suspicion et la perte de confiance.
Alors là, j'en peux plus. Là, le mec démissionne, c'est le cardinal de Paris. Le mec démissionne car il est accusé d'avoir une relation avec une femme. C'est beaucoup plus grave pour le Vatican que des actes pédocriminels. Bien oui, on a une église qui refuse de se regarder, de se déconstruire, de sortir de ses dogmes. Elle n'arrive pas à repenser le statut donné à ses prêtres. Mais il est là le cœur du problème. L'église est incapable de penser les genres et les sexualités. Ce qui est fascinant, c'est la figure du prêtre. Celle pourtant chargée de transmettre aux fidèles un discours sur la sexualité. Cette figure du prêtre est dévirilisée, presque émasculée. Les qualités à entretenir pour un bon exercice de la prêtrise sont la modération, l'empathie, la compassion, l'écoute, le soin, bref, des qualités dites féminines. Éloignés de la masculinité toxique et hégémonique, on pourrait penser que les prêtres sont dans un système sain, exempt d'actes de violence. Or, ils sont dans un système patriarcal. Et comme tout système patriarcal, celui de l'Église fonctionne sur la concentration du pouvoir dans les mains de quelques-uns, de façon verticale, hiérarchiquement ordonnée. Le pouvoir s'y exerce sous forme de contrôle, de contrainte, bref, d'oppression de celles qui sont en dessous.
Le pape François a-t-il couvert un cardinal accusé d'abus sexuels ? Interrogé par des journalistes, le chef de l'Église catholique a refusé de répondre.
Même exemple de masculinité toxique, ces prêtres sont créés par l'Église, qui est un système d'oppression. Cuchet, dans sa tribune de la Croix, dit qu'il ne voit pas de quel système on parle. Bah, je sais pas moi, un système patriarcal qui donne un statut de surhomme aux prêtres. Je reprends le terme de surhomme à l'avocate Antoinette Fréty sur Mediapart. Un système fortement hiérarchisé, vertical, où les savoirs et les pratiques ne circulent que de manière descendante, dogmatique et portée par des hommes uniquement. Un système hétéronormatif qui n'a jamais su penser et discuter la sexualité, la laissant aux mains des mécanismes de pouvoir et de prédation. Un système qui a toléré l'esclavage, c'est-à-dire l'appropriation du corps de l'autre. Cuchet de conclure, on n'a jamais intérêt à refouler un problème ou à refuser de le penser. Mais applique cela à toi-même. Ne refuse pas de penser la grande place faite dans le rapport Sauvé aux agressions sexuelles commises par des prêtres hétéros sur des femmes. Parce que ces violences ne tiennent pas à l'orientation sexuelle et il le sait. Elles tiennent au fait que les agresseurs sont des hommes dans un système qui les rend tout puissants. L'Église n'échappe pas au patriarcat ni à ses déviances.
La colère de Dieu va s'abattre sur la France.
Alors, On se dépêche de déconstruire parce que là, moi, je commence à avoir une furieuse envie d'y aller à coups de pelle. Merci, la bille.
Non, mais genre.
Une émission hors norme. Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 et vous écoutez Non, mais genre. Et ce soir, on parle d'église et genre. Et
on vient d'écouter Hey, the Christian Right de Tim Drech. Alors, on a écouté en début d'émission Pansy Division, membre du mouvement Queercore. Et bien là, c'est les, donc, de, côté mec, et ben, ouais. Côté nana, il y a Tim Drech. Voilà. Et c'est vraiment un autre groupe fondateur et mythique du queercore.
Qui appelle à haïr la droite chrétienne. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. En fait,
et puis des titres et des magazines comme La Croix, dont vient de parler Johnny dans sa chronique.
Ouais, il était vénère. Hein, Johnny. Ouais, bien il était remonté. Hein,
ouais, carrément. Ouais. Et je voulais juste préciser qu'il y a d'autres magazines chrétiens, mais de gauche. Oui, ça existe. Témoignages chrétiens notamment auxquels mes parents sont abonnés et du coup témoignages chrétiens qui au moment de la manif pour tous se sont désolidarisés des organisations de ce mouvement là en publiant un édito qui disait voilà la religion ne doit pas avoir affaire avec l'orientation sexuelle des personnes, tout le monde est libre de pratiquer ce qu'il veut, etc.
Mais ça, c'est sûr, il faut le rappeler, il y a l'institution, puis après, il y a des gens qui sont, enfin, les laïcs et tout, il y a des rapports de force aussi. Je pense que, après la manif pour tous, c'est tout le camp réac qui a pris un peu le pouvoir sur la com et tout ça. Et là, avec la SIAZ, le rapport Sauvé, il y a quand même le retour des cathos de gauche, en fait, c'est-à-dire des gens qui disent des choses beaucoup plus intelligentes, hein, en gros.
Je sais pas, je pense qu'il y a des groupes sociaux, en fait, qui sont croyants, qui sont de gauche, qui lisent ce genre de magazine. Et puis, il y a ceux qui sont de droite et qui lisent La Croix. Et puis, ça ruisselle, effectivement, dans ces différents groupes.
Et, Et puis, il y a aussi des personnes LGBT qui restent dans l'Église. D'ailleurs, en fait, ils sont dans l'Église catholique, mais on les retrouve chez les protestants, il y en a chez les juifs, il y en a chez les musulmans. Et ils essayent d'influencer un peu l'institution dans laquelle ils sont. Dans l'Église catholique, il y a ton téléphone qui sonne.
Ouais, putain, n'importe quoi.
Dans l'Église catholique, il y a l'association David et Jonathan. Qui est une association LGBT et du coup on retrouve pas mal aussi de prêtres qui sont secrètement homosexuels, et ça c'était le sujet du livre de Frédéric Martel qui était sorti en début 2019. Moi j'avais lu ça, c'est un énorme livre, mais j'avais dévoré ça parce que en fait il a fait une enquête de 4 ans et son analyse en fait c'était que l'Église catholique, c'était une communauté LGBT, en fait. Une communauté gay homophobe, en fait.
Ouais.
Peut-être on l'écoute.
Ouais.
Frédéric Martel, bonjour. Et vous avez mené une enquête depuis 4 ans, laquelle est publiée dans 20 pays simultanément sous le titre en français « Sodoma enquête au cœur du Vatican » et c'est chez Robert Laffont. Et il faut tout d'abord nous dire ce que vous avez cherché à faire au travers de ce livre. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans une enquête sur l'homosexualité au Vatican, Frédéric Martel ?
La clé d'un certain nombre de faits, de facteurs, de positions qui sont incompréhensibles finalement pour la majorité des gens, y compris d'ailleurs des catholiques, se trouvent expliquées par un secret d'État, parce que le Vatican est un État, un petit État certes, un secret d'État qui joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne croyait et qui affecte tout de la structure et les positions de l'Église. Et ce secret, c'est le très grand pourcentage d'homosexuels dans non seulement le Vatican, mais je dirais même le collège cardinalis et peut-être même dans les entourages les plus importants des 5 derniers papes. On est face à une succession d'événements qui sidèrent non seulement l'ensemble des citoyens, mais aussi les catholiques, d'abord les catholiques. Et là, je pense aux 5948 prêtres condamnés ou en cours de procès aux États-Unis. Je pense aux 1870 en Australie, 1670 aux Pays-Bas, etc., dans tous les pays. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, évidemment, il n'y a pas de lien entre homosexualité et abus sexuels, aucun lien. Les abus sexuels sont essentiellement, d'abord et avant tout, dans les familles, dans les écoles, et le fait d'hétérosexuel, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hétérosexuels que d'homosexuels à travers le monde. En revanche, et c'est là où il faut être très sérieux et très précis, c'est un fait, c'est donc factuel, que en ce qui concerne les abus sexuels de l'Église, ils sont majoritairement, je dirais même très majoritairement, perpétrés sur des garçons ou des jeunes hommes. C'est le cas notamment, c'est en tout cas ce que démontre le rapport de la Conférence des évêques aux États-Unis, 80% ce sont des garçons, les victimes, ou l'enquête Spotlight, 85%. Donc il y a une particularité qui vient bien sûr du fait que les prêtres sont des hommes, il n'y a pas de femmes qui sont prêtres, et qu'on est dans un univers très masculin. C'est d'ailleurs c'est un autre sujet, mais très misogyne. La misogynie est abyssale au Vatican. Il n'y a même pas, les secrétaires sont des hommes. À part les femmes de ménage, il n'y a quasiment pas de femmes. C'est un monde sans femmes au Vatican. Alors quel est le lien? Et c'est ça que j'ai essayé de comprendre depuis longtemps, parce que pour moi, par exemple, le fait qu'un homosexuel protège un prêtre qui abusait d'enfants ou de garçons, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Pourquoi est-ce que vous allez le protéger? Pourquoi est-ce que vous êtes silencieux? Et c'est là où il y a deux règles. C'est très triste, c'est terrible. La première règle, c'est qu'on a inventé une culture du secret depuis Paul VI pour protéger l'homosexualité massive des cardinaux, des évêques et des prêtres, et qu'à l'intérieur de cette culture, des comportements d'abus ont eu lieu et ont été protégés par cette culture, alors même que l'objectif n'était pas de protéger cette spécificité. Et puis deuxième point, pardonnez-moi, mais c'est important, le deuxième point, c'est que lorsqu'un évêque, qui dans la très grande majorité des cas, et je pèse mes mots, les évêques qui protègent des abuseurs sont dans la très grande majorité des cas eux-mêmes homosexuels, quand ils protègent quelqu'un, en fait ils ne le protègent pas, ils se protègent eux-mêmes. Ils ont peur que si le scandale arrive, que si on sort du silence, si les médias s'en occupent, s'il y a procès, on risque de découvrir leur propre homosexualité. Et je dirais que ça s'applique partout, y compris en France.
On va s'écouter un dernier petit morceau. Je pense que ça va être un extrait avant de terminer.
Fuck the System, c'est une bonne conclusion.
Ah ouais,
en fait,
Fuck the System de The Muslim, un groupe de, je ne me rappelle plus, de Californie, je crois.
Ouais, c'est bien.
En tout cas, des personnes queer dans le milieu, enfin, de confession musulmane. Attends, j'avais pas appuyé sur les boutons. C'est la fin de cette émission de Non Mais Genre. Voilà, essaye de parler, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, à tous les autres membres de l'émission Non Mais Genre, et on se dit sans doute à la rentrée en janvier en 2022. Et en attendant, n'hésitez pas à réécouter nos émissions sur le Mixcloud.